France Inter, il est 13h. Le journal, Frédéric Barrère, bonjour.
Bonjour à tous. Le meurtrier de la fonctionnaire de police de Rambouillet montrait des signes de radicalisation peu contestables. Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, a donné ce matin des précisions sur le profil de l'assassin et le déroulement des faits. Sophie Parmentier, dans un instant. Les variants en France ont tendance à régresser. Jean Castex, ce matin à Roissy, pour constater le dispositif de quarantaine pour les passagers en provenance de pays à risque. Toutes les précautions sont prise, assure le Premier ministre. Plusieurs rassemblements aujourd'hui en France et jusqu'à Tel Aviv en Israël pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Le meurtrier de Sarah Halimi ne sera pas jugé. Invité de ce journal, Maître Francis Finer, avocat des enfants et de la sœur de Sarah Halimi. Dans ce journal également, la cérémonie toute particulière ce soir des Oscars et la classique cycliste Liège-Bastogne-Liège. La météo, beau temps avec des nuages au sud. Jean-Michel Golinski à la fin de ce journal.
France Inter.
L'enquête se poursuit après l'attaque au couteau au commissariat de Rambouillet avant-hier vendredi et la mort d'une fonctionnaire de police poignardée à la gorge et à l'abdomen. Des précisions ont été apportées ce matin par Jean-François Ricard, procureur de la République antiterroriste, notamment sur le profil du tueur. Bonjour Sophie Parmentier.
Bonjour Frédéric.
Et le procureur est revenu sur le déroulement des faits.
Oui, il a expliqué que les caméras de vidéosurveillance avaient permis de retracer une partie du cheminement de Jamel Gorchen, vu à 12h49 vendredi sur son scooter, se dirigeant vers une salle de prière provisoire. À 13h58, revu, roulant vers le centre-ville de Rambouillet. À 14h19, il arrive au commissariat à pied, pose un cabas à terre, consulte son téléphone, regarde autour de lui, fait des allers-retours, les yeux fixés sur la porte du commissariat. Il est 14h23 quand Stéphanie, fonctionnaire de police, sort pour remettre son disque de stationnement. Le procureur national antiterroriste Jean-François Ricard détaille la suite.
L'auteur, devant lequel sa future victime venait de passer, était vu placer des écouteurs sur ses oreilles. À 14h25, la victime faisait retour vers le commissariat, actionnait la sonnerie afin de permettre l'ouverture de la première porte du SAS et pénétrait dans celui-ci. Dans le même temps, Jamel G., après avoir récupéré son sac posé au sol, courait en direction de la victime. Il l'avait alors immédiatement enserré avec un bras et plaqué contre la seconde vitre du SAS, tout en lui portant dans le même temps deux coups de couteau, l'un à l'abdomen et l'autre à la gorge.
L'arme était un couteau avec une lame de 22 cm, a précisé le procureur qui expliquait que Jamel Gorchen avait écouté juste avant des chants religieux prenant le djihad et il avait crié « Allahu Akbar » en poignardant sa victime.
Et puis Sophie, Jean-François Ricard ce matin a parlé de signes de radicalisation peu contestables.
Oui, ce sont ces mots, mais le procureur a aussitôt ajouté que l'agresseur avait des troubles de la personnalité. Jamel Gorchen s'était rendu à l'hôpital de Rambouillet le 19 février dernier, avait demandé à voir un psy, avait eu un rendez-vous 4 jours plus tard. Sa famille en Tunisie l'avait reçu le mois dernier et le disait dépressif. Son père, chez qui il vivait à Rambouillet, a confirmé aux enquêteurs que son fils pratiquait un islam rigoriste. Selon le procureur, depuis octobre dernier, Jamel Gorchen semblait sur les réseaux sociaux légitimer la violence contre ceux qui ont offensé le prophète de l'islam.
Sophie Parmentier, merci. Et ce matin, le syndicat Unité SGP Police appelle tous les policiers de France à se rassembler devant les commissariats demain à 17h30 au moment de l'hommage qui sera rendu à la fonctionnaire de police assassinée à Rambouillet. Concernant cette attaque du commissariat de Rambouillet, Gabriel Attal, vous l'avez peut-être entendu, était à la mi-journée l'invité de Questions politiques sur France Inter. Le porte-parole du gouvernement rejette toute récupération politique de ces drames.
Je considère qu'on ne peut pas faire de la politique politicienne avec de tels drames. C'est comme si moi, en tant que porte-parole du gouvernement, j'étais devant vous aujourd'hui à vous expliquer que cet attentat serait la responsabilité des Républicains parce que l'individu en question est entré clandestinement sur le sol français en 2009 quand ils étaient aux responsabilités. Toutes les majorités qui se sont succédées, et j'espère qu'ils se succéderont, elles auront toujours le même objectif qui est celui de protéger les Français contre le terrorisme. S'il y a un enjeu qui peut et qui doit nous rassembler et rassembler très largement politiquement, c'est celui-là. Après, il peut y avoir un débat sur les moyens qui sont mis en œuvre. Et moi, je vous le dis, je considère que cette majorité, ce gouvernement n'a pas à rougir des moyens qui sont mis en œuvre. Malheureusement, on a des drames qui surviennent encore dans notre pays et celui-ci en est un absolument bouleversant. Et ça doit évidemment toujours nous interroger sur la manière d'être plus efficace. Et c'est ce qu'on fait, mais je pense que ça doit se faire dans un cadre digne, démocratiquement.
Gabriel Attal avec Ali Badou, et ce thème de la sécurité revient au cœur des débats. Attaqué par l'opposition pour inaction face au terrorisme, le gouvernement annonce une riposte et un projet de loi mercredi en Conseil des ministres. Texte présenté par Gérald Darmanin pour renforcer la loi antiterroriste de 2017, et parmi les modifications prévues par le ministre de l'Intérieur, l'allongement jusqu'à 2 ans au lieu d'un actuellement de la période durant laquelle les personnes condamnées pour terrorisme seront suivies après leur sortie de prison. Julie-Marie Lecomte.
Les accusations de laxisme viennent de la droite. L'ex-sarkozyste Gérald Darmanin réplique dans le journal du dimanche « Notre main ne tremble pas ». Rappel du bilan, 10 000 postes pour la police et la gendarmerie, des moyens de plus comme les drones et les caméras piétons, une trentaine d'attentats déjoués, plus de 500 expulsions de radicalisés. Mercredi, il présentera en Conseil des ministres une nouvelle loi antiterroriste, une arme de plus selon lui pour mieux repérer les individus isolés, mieux suivre également les terroristes à la sortie de prison. Message à son ancienne famille politique, gare au concours l'épine de la mesure la plus démagogique. Aux côtés d'Emmanuel Macron, Gérald Darmanin entend incarner, je cite, une autorité tranquille mais ferme. Au-delà du terrorisme, il élargit le champ. Position ferme, justement, contre le cannabis, qualifié de drogue dure. Il se prononce ouvertement pour une évolution de la loi en matière d'irresponsabilité pénale en cas d'absorption volontaire de stupéfiants. Immigration également, le ministre de l'Intérieur réitère la volonté de réforme de l'espace Schengen pour mieux protéger les frontières de l'Union européenne.
La lutte contre l'épidémie de coronavirus et les dernières mesures prises en France pour stopper la menace des variants. Jean Castex était ce matin à Roissy pour constater le dispositif de quarantaine obligatoire et d'isolement de 10 jours pour les passagers en provenance des pays les plus à risque. Et selon le Premier ministre, les variants ont tendance à régresser en France. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Et Jean Castex a pu constater le nouveau protocole pour les voyageurs mis en place hier.
Oui, pour les passagers qui arrivaient ce matin de Johannesburg, Buenos Aires, Bangalore, New Delhi ou Sao Paulo, il y a d'abord cette file d'attente dédiée pour les premiers contrôles.
Vous arrivez de Sao Paulo, votre passeport et votre test PCR s'il vous plaît, et vous allez en refaire un ici à l'arrivée.
Un test négatif nécessaire avant de partir, puis il faut patienter 2 à 2h30 en tout de même pour réaliser un nouveau test antigénique cette fois. Certains s'agacent, s'impatientent et avant cela, ils doivent fournir une adresse pour leur future quarantaine.
Est-ce que vous avez un justificatif de domicile pour l'isolement?
C'est chez ma mère. J'ai dû signer un arrêté d'isolement, arrêté préfectoral portant mise en quarantaine de 10 jours.
Thomas, étudiant en commerce, rentre après 6 mois passés dans une université brésilienne.
Moi, je vais dans une maison de vacances en Bretagne et il est possible que j'ai des contrôles de police à cette adresse-là. Pour avoir vu la situation au Brésil et l'explosion du nombre de variants, je comprends totalement la réponse.
Car l'objectif, c'est de limiter justement l'introduction des variants en métropole, défend Jean Castex.
Nous procédons, dans le cadre des tests réalisés, à des séquençages pour bien repérer l'origine des virus. Je constate que les variants, notamment brésiliens et sud-africains, non seulement sont très peu nombreux sur le territoire national, mais ont même tendance ces dernières semaines à régresser.
Et hier à Roissy, 504 passagers ont reçu un arrêté individuel de mise en quarantaine.
Rémi Brancato, merci. L'Inde fait donc partie des 5 pays pour lesquels la France impose une quarantaine obligatoire. Le pays est submergé par la pandémie et bat chaque jour le record effrayant de contamination et de décès quotidiens. 350 000 nouveaux cas, près de 3 000 décès. Washington propose d'apporter un soutien à l'Inde qui affronte un cauchemar, une catastrophe sanitaire. À Bangalore, reportage comme Bastin.
Une semaine de plus de confinement pour la capitale. New Delhi ne parvient pas à enrayer la progression de l'épidémie. Les services hospitaliers y sont débordés et manquent notamment cruellement d'oxygène. 357 personnes y sont officiellement mortes ce samedi. Partout en Inde, les habitants expriment leur détresse face à la deuxième vague de Covid-19 qui foudroie le pays. À l'entrée d'un crématorium, Sanjit, 37 ans, se confie. La situation est très difficile. L'année dernière, il y avait peu de cas, mais cette année, il y en a énormément. J'ai perdu mon père lors de la première vague. J'avais à peine fini mon deuil, mais aujourd'hui, ma grand-mère est morte. Je suis là pour collecter ses cendres. J'ai attrapé le Covid, mais je m'en suis remis. Ma tante est par contre hospitalisée en ce moment. La plupart des grandes villes ont pris des mesures de restrictions sanitaires, mais la déferlante devrait s'accentuer. Selon une étude de l'Université de Washington, le pic de la deuxième vague indienne ne sera pas atteint avant mi-mai, avec plus de 5000 morts par jour à prévoir. Les spécialistes soulignent que les chiffres indiens sont sous-évalués à cause du manque de tests. De nombreux corps partent au crématorium sans être comptabilisés comme des morts du Covid. À Bangalore, Com Bastin pour France Inter.
Et puis, à la veille du retour en classe, après les vacances de printemps, demain, plus de 1000 étudiants, avec un collectif de professionnels de santé et l'association Victimes Coronavirus France, ont déposé plainte contre le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et Frédéric Vidal, à l'enseignement supérieur, pour mise en danger de la vie d'autrui. Les étudiants s'opposent au maintien des épreuves de BTS en présentiel prévues mardi et mercredi prochain. Dans l'actualité également, plusieurs rassemblements de colère aujourd'hui en France jusqu'à Tel Aviv, en Israël, pour réclamer justice pour Sarah Halimi. Le principal rassemblement aura lieu à Paris, place du Trocadéro, une mobilisation après la décision de la Cour de cassation qui a confirmé la semaine dernière l'impossibilité de juger le meurtrier de Sarah Halimi compte tenu de l'abolition de son discernement lors de ce crime commis il y a 4 ans. Kobili Traoré, gros consommateur de cannabis, était en proie à des bouffées délirantes lorsqu'il a tué, en s'acharnant sur elle, Sarah Halimi, sa voisine de 65 ans, avant de la défenestrée. Dans le même temps, la Cour de cassation entérine le caractère antisémite de ce crime. Cette affaire, qui a suscité une émotion énorme, bouscule aujourd'hui le droit. Emmanuel Macron a souhaité un changement de la loi. C'est ce que réclame également ce matin Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l'Orne.
Ce qui va être demandé, c'est que cette déclaration d'irresponsabilité se fasse au stade du jugement, c'est-à-dire que cette disposition puisse être évaluée par le tribunal, que les parties civiles aient droit à un procès, et puis ensuite que, précisément, ces faits soient jugés des faits aggravants de responsabilité. Il n'est absolument pas question de juger des gens dont le discernement serait évidemment absent. Il n'est pas question de juger des fous, il n'est pas question d'abroger l'article 64 du Code pénal, ce qui serait évidemment absolument contraire aux principes républicains. Et ce n'est pas seulement un problème pour la communauté juive ou un problème d'antisémitisme, c'est un problème pour tous les citoyens.
Nathalie Goulet avec Ersine Lebovitch, invitée de ce journal, maître Francis Spinner, avocat des enfants et de la sœur de Sarah Halimi. Bonjour maître Spinner.
Bonjour.
Alors ces rassemblements aujourd'hui sont la manifestation d'une colère, d'une injustice ou d'un écœurement ?
Oh, les trois. C'est la colère, c'est l'incompréhension et c'est aussi un écœurement parce que d'abord les conditions dans lesquelles l'instruction et les décisions de justice ont été rendues sont contestables. Je rappelle que quand M. Traoré a défenestré Mme Halimi, les policiers étaient en bas et il a dit « cette femme se suicide ». Et je pense que lorsqu'on n'a pas conscience que l'on commet un meurtre, on n'essaye pas de le maquiller en suicide. La psychiatrie n'est pas une science exacte. D'ailleurs, un des experts avait commis une erreur de diagnostic énorme parce qu'il disait que M. Traoré était schizophrène. Il est revenu à l'audience sur ce diagnostic en reconnaissant qu'il s'était trompé et il n'y avait pas d'unanimité. Et donc, il appartenait à une cour d'assises après un débat public contradictoire de se prononcer. Si elle avait estimé que M. Traoré n'était pas responsable, elle pouvait le faire, mais il y aurait eu ce débat. Or, la chambre de l'instruction a volé la justice aux enfants de Sarah Halimi et la Cour de cassation, d'une manière que je qualifie d'hypocrite, a décidé de ne pas faire ce procès en arguant que la loi devait être interprétée strictement. Or, il était arrivé déjà à la Cour de cassation d'interpréter largement la loi quand elle ne la complète pas ou lorsqu'elle ne l'invente pas.
Alors, maître,
donc, nous avons quelqu'un qui va échapper à la justice en France.
Alors, maître Spinner, que faut-il en urgence ? Un changement, une évolution de la loi, comme l'a évoqué Emmanuel Macron, Nathalie Goulet, que l'on vient d'entendre, et même Gérald Darmanin, encore ce matin, dans la presse.
Il y a beaucoup de sénateurs qui, M. Sol, qui est sénateur, l'avait fait, Guillaume Larrivé l'a fait, tout le monde fait des propositions de loi. Oui, pour l'avenir, il faut en venir à une logique très simple. Celui qui prend une substance illicite sait qu'il s'expose à des dangers et il doit en subir les conséquences. Cela peut entraîner une altération du discernement, mais certainement pas une abolition. Et je récuse ce procès qui est fait en disant qu'on veut juger les fous. Monsieur Traoré n'avait pas d'affectation psychiatrique avant les faits, il n'en a pas davantage aujourd'hui. Il est parfaitement capable de subir un procès, il était parfaitement capable de subir un procès et d'en comprendre les enjeux. Encore une fois, c'est au moment du passage à l'acte qu'il aurait eu cette bouffée délirante, mais psychiatriquement, il n'avait rien avant, il n'a rien après. Est-ce et d'ailleurs, se posera la question de sa mise en liberté rapidement.
Est-ce que le plus troublant n'est pas que la consommation de drogue constitue une circonstance aggravante pour un délit routier, par exemple, mais pas dans le cas de ce crime? Est-ce que c'est cela qui pose le plus question, notamment aux personnes qui vont se rassembler aujourd'hui à Paris?
Non, ce qui pose question, c'est que la Cour de cassation dit « la loi ne distingue pas l'origine du trouble psychique ». Et donc, puisqu'elle ne le distingue pas, nous disons qu'il y a un trouble psychique, donc circuler, il n'y a rien à voir. Rien n'interdisait à la Cour de cassation de dire que dans le silence de la loi, conformément à une position traditionnelle, c'est-à-dire celui qui se met en danger, et il est conscient lorsqu'il se met en danger, en subit les conséquences, eh bien, la Cour de cassation pouvait parfaitement le dire. Elle a voulu renvoyer aux politiques en disant « votre loi est incomplète » et c'est cela qui nous apparaît très choquant.
Alors Maître voilà. Spinner, une plainte va être déposée en Israël, même si la France n'extrade pas ses ressortissants, ça hypothèque la possibilité d'un procès, ça, malgré une plainte qui va être déposée?
Non mais d'abord, la justice et la lutte contre l'antisémitisme, c'est aussi une affaire de symbole. Et que la sœur de Sarah Halimi, qui est citoyenne israélienne, utilise les lois de son pays, mais je le dis, comme un Français, si un Français avait vu son parent tué en Israël par un Israélien et que la justice israélienne n'avait pas été rendue, il aurait, conformément à la loi française, eu la possibilité de déposer plainte en France. Alors évidemment, on n'extrade pas les propres nationaux, donc ce procès n'aura qu'une portée symbolique, mais au moins nous espérons qu'il soit dit par des juges que le meurtre qu'a commis M. Traoré a été commis par quelqu'un de responsable, conscient et qui savait qu'il tuait quelqu'un parce qu'elle était juive.
Maître Francis Spinner, merci beaucoup, avocat des enfants et de la sœur de Sarah Halimi. La cérémonie des Oscars, 8 films sont en lice pour succéder à Parasite du sud-coréen Bong Joon-ho, parmi les plus attendus. Des films sortis sur les plateformes ou en avant-première sur des chaînes payantes, les 7 de Chicago, Mank ou Judas and the Black Messiah. D'autres qui attendront la réouverture des cinémas comme The Father du français Florian Zeller. Avec en maître de cérémonie le réalisateur Steven Soderbergh, ce soir la cérémonie ne devrait ressembler à aucune autre, Corinne Pellissier.
Il y travaille depuis des mois. Qui d'autre que le réalisateur du film Contagion pouvait le mieux tirer parti d'une pandémie mondiale? Steven Soderbergh, qui a déjà tenté toutes les expériences de cinéma, tous les outils, tous les formats, se lance aujourd'hui dans le show en temps réel. Pas de remise de récompense en visio, pas de discours depuis le living room des candidats, mais un vrai film avec de vrais acteurs, Halle Berry, Brad Pitt ou Harrison Ford, qui joueront leur propre rôle dans le décor de la gare ferroviaire de Union Station pour une plus grande distanciation sociale. Une cérémonie bien obligée de se réinventer à l'image de l'industrie du cinéma en cette année catastrophique, marquée par les fermetures de salles et les reports de sorties, mais aussi par davantage de diversité dans les nominations. De nouveaux visages chez les comédiens, Andrade, Vanessa Kirby, Lake Stanfield, Steven Yeun, et pour la première fois en position de favorite, une réalisatrice chinoise, Chloé Zhao, avec un film sur les oubliés du système en Amérique. Effectivement, cette année 2020 n'aura ressemblé à aucune autre.
L'un des rendez-vous du sport sportif du jour, le rendez-vous du jour, c'est bien sûr Liège-Bastogne-Liège, 107e édition de ce grand classique des courses cyclistes. Et on va suivre tout particulièrement notre champion du monde, Julien Alaphilippe, en direct de Liège. On retrouve Fanny Lechevestrier. Bonjour Fanny.
Bonjour Frédéric.
Et aujourd'hui, Julien Alaphilippe a une occasion, peut-être en or, de marquer l'histoire de la course.
Ah oui, en devenant, en remportant cette doyenne avec le maillot de champion du monde sur le dos. Seuls 7 coureurs l'ont fait jusqu'à maintenant dans l'histoire, dont Eddy Merckx avec un doublé. Voilà, ça vous pose le défi qui est proposé à Julien Alaphilippe. Alors on n'en est pas encore là, même si c'est vrai, il l'a redit, il est en pleine confiance après sa victoire mercredi sur la Flèche Wallonne. En attendant, on a un peu plus de 100 km de parcouru dans cette dernière classique du printemps. 7 échappés pour le moment, ils ont une avance confortable de 8 minutes sur le peloton. Mais, entre guillemets, les choses sérieuses n'ont pas encore débuté. Quand je parle des choses sérieuses, Frédéric, c'est bien sûr la répétition des côtes qui usent, qui grignotent votre énergie kilomètre après kilomètre pour finir par en scotcher plus d'un dans la célèbre roche au faucon à 13 kilomètres de l'arrivée. C'est sans doute là que la course va se décanter, va se jouer entre les favoris, Julien Alaphilippe bien sûr, mais attention, il ne faut pas oublier Roglic, Primoz Roglic, le tenant du titre, Pogacar, le revanchard, et puis encore un petit jeune, Valverde, 41 ans aujourd'hui, troisième de la Flèche Wallonne mercredi.
Fanny Lechevestrier, merci. Le temps pour cet après-midi et pour demain.
La météo avec les meubles Gautier. Imaginés, dessinés et fabriqués en France pour durer. Intemporel et élégant. À retrouver en magasin et sur gautier.fr.
Jean-Michel Golinski.
Le temps perturbé qui survole l'Espagne et le Portugal fait remonter des nuages d'altitude sur la moitié sud du pays avec par-dessous des ondées de la Nouvelle-Aquitaine à l'Occitanie. L'OTAN et le vent du sud sur les Pyrénées seront turbulents dans des températures qui vont se stabiliser entre 22 et 24 en général jusqu'à 26 degrés prévus sur la Gironde et des Charentes à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Du nord de la Loire au nord-est, le bleu va s'imposer. Les passages nuageux matinaux de l'extrême nord seront vite oubliés avec des températures de 20 degrés en moyenne dans l'intérieur, mais pas plus de 13 à 15 près de la Manche où le vent de nord-est sera sensible vers 60 km/h. Demain, la moitié nord du pays va conserver un soleil vaillant, mais dans la partie sud, les pluies seront plus organisées qu'aujourd'hui entre le sud-ouest, les Alpes et la Corse, avec un vent d'est très turbulent en Méditerranée, dans des températures stationnaires au nord, mais en baisse sensible dans la partie sud.
Jean-Michel Golinski de Météo France.